attends, j'ai oublié un truc.
Qu'est-ce que c'était?
Ça paraît des mots, mais c'était pas des mots.
De toute évidence, Adam invente alors l'hébreu.
Avec la langue.
Oh, je sais plus.
Je pensais que vous disiez que nous parlions en japonais.
Avec la langue.
Oh, j'ai sur le bout de la langue, ça m'énerve.
Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault, réalisée par Ghislaine David. Mireille Huchon, vous êtes une seizièmiste réputée, professeure en Sorbonne, Paris 4, auteure d'une récente biographie de Rabelais, parue chez Gallimard. On vous doit notamment deux livres d'un prix très abordable, au contenu scientifique impeccable, Une histoire de la langue française, au livre de poche, et un que sais-je, sur le français de la Renaissance. Vous avez édité les œuvres complètes de Rabelais en Pléiade, c'était je crois en 1994, 500e anniversaire supposé de la naissance de l'auteur de Gargantua, qui vit le jour de façon certaine entre 1483 et 1502. Nous allons non pas tirer Rabelais par les événements supposés ou avérés de son existence, Mireille Huchon, mais par sa langue. Précisons d'emblée que nous sommes au XVIe siècle dans un contexte de bilinguisme latin-français qui provoque une défense et illustration de la langue vernaculaire aussi foisonnante qu'énergique avec une invention verbale sans précédent. Surgit ici la première question, Mireille Huchon, pont aux ânes continuellement franchi en ces temps de contestation des maîtres juchés sur leur chair, en ces temps de refus de tous les promontoires qui feraient écran, l'érudition, la glose, la paracritique, le travail sur la langue, ne viennent-ils pas étouffer sous les connaissances tentaculaires un Rabelais frais et joyeux? L'expertise forcément datée ne tue-t-elle pas la verve atemporelle d'un créateur qui s'ébroue là où nous le disséquons?
Vaste question à laquelle je crois qu'on peut répondre par le fait que Rabelais, il faut le lire à haute voix, et je crois le lire aussi hors toute gaulose. Je le dis d'autant plus facilement que j'ai passé quand même des décennies à enrichir le texte de gaulose, mais je crois que le texte de Rabelais doit se lire dans une sorte de grand mouvement d'oralité, et puis peu importe parfois qu'on ne comprenne pas tel mot, il faut se laisser emporter et ne pas se laisser arrêter par tel ou tel mot. Je pense qu'il y a véritablement une verve du texte.
Mireille Huchon, vous avez commis un joli lapsus en disant « à autre voix ». Il se trouve que nous allons entendre deux extraits par d'autres voix, puisque nous entendrons des enregistrements. Mais si vous conseillez aux gens de s'abîmer dans Rabelais, vous leur conseillez d'y aller directement
dans la langue originelle. Dans la langue originelle, parce qu'il y a toute une saveur de mots qui ne passent pas en traduction. Vous avez de nombreux mots qui se répondent les uns les autres et qui ne passent pas dans la traduction. Et d'autre part, alors là, mais vous allez me dire que l'on passe à l'élément qui est plus de lecture, tout le travail de Rabelais sur la langue, tout son travail très minutieux sur l'orthographe, évidemment disparaît dans les éditions modernisées. Or, Rabelais, c'est vraiment une de ses caractéristiques, c'est qu'il fut, au moment même où naissait la codification, où naissaient les premières grammaires du français, les premiers dictionnaires du français, les premières tentatives orthographiques, il a véritablement créé un système linguistique très particulier, très complexe, et qui, c'est vrai, disparaît lorsque l'on passe en traduction.
Parce que, Mireille Huchon, il faut bien insister sur le fait que cet auteur qui nous paraît plaisant, frais et joyeux, compliquait à loisir la langue de son époque.
Ah, la compliquait totalement, oui. Parce que jamais, et ça je crois qu'il faut le dire et je le répète, jamais personne n'a parlé comme Rabelais écrit. Sa langue est véritablement une somme de tous les langages possibles, qui était certainement beaucoup plus difficile pour le lecteur de l'époque, même que pour le lecteur actuel, parce que le lecteur de l'époque n'avait pas forcément fait du grec, n'avait pas non plus tous les éléments concernant, je ne sais pas, les dialectes, etc. Donc C'est un texte qui est très difficile pour le lecteur de l'époque et qui ne correspond pas, comme je vous dis, à la, enfin, à la manière de parler de l'époque.
Et alors là, ça va être la minute cuistre de Tire-ta-langue, Mireille Huchon. Il faut dire qu'il avait toute une stratégie sténographique. Il faudrait peut-être expliquer ce que c'est que la j'arrive même plus à le prononcer, la sténographie dont il fut un prince.
Ah oui, alors là, on passe au problème de l'interprétation des textes de Rabelais. C'est-à-dire que Rabelais, vous avez une lecture première qui peut se faire, et une lecture très jouissive, je dirais, mais vous avez aussi une lecture, enfin des lectures qui sont des lectures à plus haut sens, et d'un texte qui est à plusieurs niveaux de lecture, hein, qui sont voulus par Rabelais, exactement comme pour un tableau tel que Archimboldo, par exemple, vous voyez derrière derrière le visage, des fruits ou vice-versa. Et donc ça, c'est ce que l'on appelle la stéganographie qui a été indiquée par un auteur qui suit d'ailleurs Rabelais, qui est vraiment je n'allais pas dire un sage de Rabelais, mais Béroald de Verville, qui précise bien ce qu'est la stéganographie, c'est-à-dire que nous avons, à partir d'un petit élément qui est signé, une image autre qui apparaît. Ce sont les anamorphoses, c'est ce que vous deviez faire quand vous étiez enfant. Vous preniez, par exemple, un arbre, et derrière l'arbre, vous trouviez le renard qui était caché. Donc voilà ce qu'est la stéganographie. Et donc, le texte de Rabelais, enfin, me paraît véritablement à lire comme un texte de...
Et justement, peut-être que nous pourrions nous livrer avec vous, Mireille Huchon, à de très courts travaux pratiques, avec un extrait fort connu, mais qui se prête peut-être à une telle interprétation. Il s'agit du chapitre 8 de Gargantua, la fameuse lettre à Pantagruel, que je vous propose d'écouter par Denis Lavant.
Par quoi, mon fils ? Je te admoneste que emploie ta jeunesse à bien profiter en études et en vertus. Tu es à Paris, tu as ton précepteur Épistémon, dont l'un par vives et vocales instructions, l'autre par louables exemples, te peut endoctriner. J'entends et veux que tu apprennes les langues parfaitement. Premièrement, la grecque, comme le veut Quintilian. Secondement, la latine. Et puis l'hébraïque pour les saintes lettres, et la chaldaïque et arabique pareillement. Et que tu formes ton style, quant à la grecque, à l'imitation de Platon, quant à la latine, à Cicéron. Qu'il n'y ait histoire que tu ne tiennes en mémoire présente, à quoi te aidera la cosmographie de ceux qui en ont écrit. Des arts libéraux, géométrie, arithmétique et musique, je t'en donnais quelques goûts quand tu étais encore petit, en l'âge de 5 à 6 ans. Poursuis-la en reste, et de astronomie sache-en tous les canons. Laisse-moi l'astrologie divinatrice et l'art de Lullius comme abus et vanité. Du droit civil, je veux que tu saches par cœur les beaux textes et me les confères avec philosophie. Et quant à la connaissance des faits de nature, je veux que tu te y adonnes curieusement. Qu'il n'y ait mer, rivière, ni fontaine dont tu ne connaisses les poissons, tous les oiseaux de l'air, tous les arbres, arbustes et fructices des forêts, toutes les herbes de la terre, tous les métaux cachés au ventre des abîmes, les pierreries de tout Orient et Midi, rien ne te soit inconnu. Puis, soigneusement, revisite les livres des médecins grecs, arabes et latins, sans contaminer les talmudistes et kabbalistes. Et par fréquentes anatomies, acquiers-toi parfaite connaissance de l'autre monde, qui est l'homme.
Alors, Mireille Huchon, dans cette fameuse lettre à Pantagruel, du chapitre 8 de Gargantua, Si nous étions en Sorbonne, nous commencerions par faire une introduction, nous pourrions parler du genre épistolaire, etc. Mais là, faisons, grâce à vous, en faisant fi de tout l'enseignement que vous dispensez habituellement, faisons un plongeon. dans ce texte.
Bon, écoutez, ne caricaturez pas trop les Sorbonnards actuels. Rabelais a suffisamment caricaturé les Sorbonnards de son temps. Je rappelle d'ailleurs qu'au temps de Rabelais, la Sorbonne, c'était un collège qui appartenait à la faculté de théologie. Donc, c'est important. Alors, un mot, je ne sais pas. Dans cette lettre, il y a un terme qui apparaît, c'est souvent qui est un abîme de science, enfin qu'on trouve peut-être, qui renvoie à l'encyclopédisme. Alors je crois qu'une des choses à laquelle il faut veiller, c'est que ce texte, alors on l'a opposé à la pédagogie de Montaigne en disant que c'était une tête bien pleine contre une tête bien faite. Bon, il faut bien voir que c'est, on est finalement ici dans une éducation de géant, donc ça se comprend qu'on ait autant d'éléments. Mais surtout, et c'est là où peut-être on retrouve également la stéganographie, et enfin, de façon assez large, c'est que derrière ce texte, il faut y voir un plaidoyer pour ce que Budet souhaitait. Budet, je le rappelle, c'est celui qui est à l'origine des lecteurs royaux qui donneront ensuite naissance, enfin, au Collège royal. Et Budet, donc, avait, dans un certain nombre d'ouvrages auparavant, milité pour que l'on ait une faculté qui soit une faculté d'éloquence, enfin, qui rejoigne toutes les disciplines, qui soit véritablement pluridisciplinaire, qui soit l'encyclopédisme. Et il s'en prenait violemment aux différentes facultés individuelles, donc qui ne donnaient qu'une partie du savoir. Donc il militait pour un encyclopédisme. Donc ici, c'est exactement ce que nous avons dans ce texte, qui s'oppose à un texte précédent où Pantagruel fait le tour des universités. Et on voit très bien que dans le tour des universités, il passe dans une dizaine d'ailleurs d'universités, il n'apprend pas grand-chose, et il s'agit d'universités qui sont monodisciplinaires. Et là, on a un jeu très intéressant où Rabelais parle ici en humaniste, parle, j'allais dire, en dévot de Budet. N'oublions pas non plus qu'un des premiers textes connus de Rabelais, c'est sa fameuse lettre à Budet dans les années 1520. Et là, véritablement, c'est un langage d'humanisme qu'il utilise, et également pour arriver à convaincre en arrière-plan aussi le roi de la nécessité de développer ces lecteurs royaux, dans la mesure où en 1530, quand ils ont été créés, c'était vraiment une toute petite entreprise, si je puis dire. Enfin, ils étaient très peu nombreux, il n'y avait pas de lieu pour les... Et donc là, on a véritablement, dans le texte de Rabelais, des éléments qui vont dans ce sens-là. Et donc, cette lettre est à prendre vraiment très au sérieux. Certains en ont fait une lecture parodique, mais pas du tout.
Parce qu'effectivement, Mireille Huchon, on a l'impression parfois, vous avez précisé qu'il s'agit de géants, on l'oublie, on a l'impression parfois de frôler le trop-plein. Mais vous refusez d'y voir, effectivement, une caricature et une charge. On pourrait aller presque trop loin dans la stéganographie et vous demander s'il n'y a pas quasiment une sorte d'humanisme visant à séculariser les langues et le savoir. Est-ce qu'on peut, on ne va pas parler de laïque au sens du XXe siècle, bien entendu, mais est-ce qu'on peut voir dans cette lettre une façon d'extirper le savoir de l'emprise religieuse sous couvert de la flatter?
Oh, c'est pas le sortir de l'emprise religieuse. C'est finalement assez intéressant de voir que les disciplines, lorsqu'elles nous sont présentées, les livres des médecins grecs, arabes, latins, les talmudistes, les kabbalistes, donc on a une rénovation, je crois, des disciplines dans ce texte. Et puis, alors que dans la faculté de médecine, on n'utilisait pas ces types d'autorité. Même chose, ils souhaitent que l'on étudie toutes les langues qui n'étaient pas étudiés dans les facultés. N'oublions pas qu'il y avait une faculté de théologie, une faculté de médecine, une faculté des arts, une faculté de droit. Mais on a ici donc toute une série de disciplines qui n'étaient jamais enseignées. Donc on a une sorte, on a un idéal d'humaniste, je crois.
Et c'est une façon de les relativiser que de les mettre toutes dans ce pot commun.
Ah non, ce n'est pas les relativiser. Je pense que pour Rabelais et pour Budé, c'était au contraire leur. Enfin, m'ont montré comment elles sont toutes. Elles s'allient toutes les unes par rapport aux autres et comment on a cette sorte de cercle qui est l'encyclopédie. Enfin, l'encyclopédie, c'est le terme qui est employé par Budé et c'est le terme qu'emploie Rabelais à un autre endroit d'ailleurs du Pantagruel et c'est la première occurrence dans la langue française. Donc on a vraiment un goût pour cette encyclopédie et une valorisation de l'encyclopédie et de la philologie.
Quand je disais relativiser, je me suis mal exprimé, je voulais dire permettre que s'exprima une sorte de recul critique par rapport à toutes ces sciences, ce que ne permet pas le mono, ce que
Absolument.
Permet le poli.
Absolument, dans ce sens-là, tout à fait. Oui.
Je vous propose maintenant, Mireille Huchon, de voir comment Rabelais travaillait précisément sur la langue. Nous allons entendre, toucher de l'ouïe, littéralement, cette invention verbale extraordinaire dans un des passages les plus connus. C'est le chapitre 27 du Regard Gargantua, la fameuse castagne de frère Jean des Entomures, qui permet d'entendre véritablement une sorte de langue en fusion. Nous allons l'entendre dans un enregistrement incertain. Il m'a semblé reconnaître Hubert Gignoux, mais je suis sûr que les auditeurs auront un avis sur la question.
Écoutez, messieurs vous autres, qui aimez le vin, le cordieux, si me suivez.
Car hardiment que Saint-Antoine me harde, si ceux tâtent du pio qui n'auront pas secouru la vigne.
Ventre Dieu, les biens de l'église. Ah non, non, diable, saint Thomas l'Anglais voulut bien pour y se mourir. Si je y mourais, ne serais-je saint de même? Je n'y mourrai jamais pourtant, car c'est moi qui le fais aux autres. Ce disant, mit bas son grand habit et se saisit du bâton de la croix, qui était de cœur de cormier, long comme une lance, rond à plein point et quelque peu semé de fleurs de lys, toutes presque effacées. Ainsi, sortit en beau sayon, mit son froc en écharpe et, de son bâton de la croix, donna si brusquement sur les ennemis qui, sans ordre, ni enseigne, ni trompette, ni tabourin par mille clos vendangeaient, car les porte-guidons et porte-enseignes avaient mis leurs guidons et enseignes à l'orée des murs. Les tabourineurs avaient défoncé leurs tabourins d'un côté pour les empires de raisin. Les trompettes étaient chargées de moussines. Chacun était déraillé. Il choqua donc si roidement sur eux, sans dire gare, qu'il les renversait comme porc, frappant à tort et à travers, à vie du scrime. Aux uns escarbouillait la cervelle, aux autres rompait bras et jambes, aux autres délochait les spondyles du cou, aux autres démoulait les reins, avalait le nez, pochait les yeux, fendait les mandibules, enfonçait les dents, la gueule, et décroulait les omoplates, sfacelait les grèves, dégondait les ischies, débousillait les fossiles. Si quelqu'un se voulait cacher entre les cèpes plus épais, haïs celui, fressait tout l'arrêt du dos et les renait comme un chat. Si aucun sauvait se voulait en fuyant, haïs celui, faisait voler la tête en pièces par la commissure lambdoïde. Si quelqu'un gravait en un arbre pensant y être en sûreté, hit celui de son bâton en palais par le fondement. Si quelqu'un de sa vieille connaissance lui criait « Ah, frère Jean, mon ami, frère Jean, je me rends !» Il t'est, disait-il, bien force, mais ensemble, tu rendras l'âme à tous les diables. Et soudain lui donnait Dronos.
Donc Mireille Huchon de votre cher Rabelais, le fameux chapitre 27 du Gargantua, avec l'apparition d'un costaud de foire avant la lettre, frère Jean des Entomures. Est-ce qu'à chaque fois, ce texte produit son effet sur vous ?
Ah, je le crois, oui. C'est un des textes magnifiques où finalement c'est l'entrée, comme vous le dites, du moine de Seuillé dans la geste gargantuine, et il apparaît avec toute sa force, toute sa virulence. C'est dans cet épisode où, je rappelle, il y a le clos de Seuillé qui est saccagé par les soldats de Picrocole, et lui face, parce que le texte est aussi très intéressant dans le début de chapitre, face à l'inaction des moines qui se contentent finalement de psalmodier et qui ne font rien, lui finalement va avec, on va y revenir, son bâton de la croix, essayer de sauver la vigne, comme il le dit. Mais alors, vous voyez, là, dans un texte comme celui-ci, comme vous l'avez lu, finalement, nous avons le Rabelais médecin qui s'en donne à cœur joie. Il s'en donne à cœur joie avec des termes qui sont des termes très populaires d'une certaine mesure. Certains sont des termes dialectaux. Et puis, à côté de cela, des termes très savants. Donc on a tout un jeu là dans ce texte et dans ces niveaux de langue. Hein.
Et en même temps, Mireille Huchon, on a l'impression qu'il se laisse guider, même si tout cela est très travaillé, par tout un système d'assonance.
Oui, là absolument. Dans un texte tel que celui-ci, un mot un appel à un autre, c'est des paronomas, c'est toute une série de... Enfin, c'est du Rabelais absolument exceptionnel, là. Mais c'est aussi intéressant. Moi, je pense qu'on peut faire cette lecture, de ce personnage, comme vous dites, costaud de foire avant l'heure, peut-être. Mais le texte est aussi très piégé, hein, ce texte-là, parce que c'est pas pour un homme, pour nous. On voit donc l'homme d'action, là. Mais pour les hommes du XVIe siècle, il y avait aussi derrière ce chapitre un événement inouï, finalement, dans l'histoire de l'Europe, qui est en arrière-plan. C'est le fameux sac de Rome. Parce que je rappelle que le sac de Rome, les lansquenets de Charles Quint ont saccagé Rome. Le pape s'était réfugié au château Saint-Ange, et il y avait là, au château Saint-Ange, avec le pape, le protecteur de Rabelais, Guillaume du Bellay, qui a été très furieux que le pape ne veuille pas résister, et nous avons toute une série de lettres qu'il a envoyées. Il a tenté de résister, bon, il n'y est pas arrivé. Donc on a, si vous voulez, en arrière-plan, derrière ce texte, derrière cette muraille, les murailles que l'on, par lesquelles il y a des brèches, etc., on a une mise en scène du sac de Rome. C'est tout à fait intéressant, avec d'autant plus qu'on a ce terme de vigne qui est utilisé, la vigne...
Alors voilà, nous sommes au cœur d'une ambiguïté, parce que la vigne peut être à la fois excessivement profane et en même temps excessivement liée au religieux, dans
absolument.
La symbolique.
Donc la vigne est totalement symbolique ici. Alors là, c'est vraiment un des éléments, on parlait de stéganographie tout à l'heure, mais je crois que c'est vraiment un des éléments qui signe, parce que c'est la vigne, bon, en tant que telle, hein, avec le pio, et vous avez tout le jeu là derrière, mais la vigne, c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, dans le Nouveau Testament, ça désigne l'Église. Lorsqu'il y a une bulle du pape contre Luther, elle précise que la vigne, en quelque sorte, est vilipendée par les hérétiques, etc. Donc la vigne est au cœur même du texte. Et c'est vraiment très intéressant que Rabelais, en 1542 d'ailleurs, lorsqu'il apostrophe ses lecteurs, où il parle de la peste, il y avait eu une peste d'ailleurs à Rome, et il apostrophe ses lecteurs avec le terme de messier. Et les messiers, ça veut dire les gardiens de la vigne. Donc vous voyez, il nous fournit un élément. Mais le texte est encore beaucoup plus complexe, et c'est pour ça, vous me direz, mais il y a aussi un plaisir du décryptage, hein, faut bien l'avouer, hein, parce que vous avez ce fameux bâton de la croix semé, qui était le cœur de Cormier, et qui était quelque peu semé de fleurs de lys toutes effacées. Pourquoi ces fleurs de lys toutes effacées? Pourquoi ce bâton de la croix? Alors ça, et là, en fait, finalement, quand on l'a trouvé, on se dit, bon, les choses sont simples, mais c'est peut-être pas si simple que ça. Le bâton de la croix, il faut savoir qu'au début du règne de François Ier, donc c'était en 1517, le pape avait donné à François Ier un bâton de la croix pour qu'il puisse, en roi très chrétien, finalement, lancer la croisade. Donc il y avait là, la croisade était vraiment à l'ordre du jour dans les années 1520 contre le Turc. Ensuite, lorsqu'on est dans les années 1530, là, la croisade n'est plus du tout à l'ordre du jour, au contraire même, puisqu'il y aura ensuite la fameuse alliance avec les Turcs dans les années 1530. Donc vous voyez qu'ici, on a finalement un jeu qui se fait sur le croisé, et notre frère Jean, il apparaît véritablement en croisé, d'ailleurs le texte se termine aussi par une réplique sur le croisé, mais vous voyez combien c'est complexe, d'autant qu'en plus, tout le passage ici, tout ce chapitre est très marqué par Erasme, qui lui était contre les croisades. Le personnage aussi qui a servi pour frère Jean, c'est Jean Tenneau, un ami de Rabelais, qui lui, au contraire, dans les années 1520, avait écrit pour la croisade. Donc, tout est terriblement complexe, mais on a derrière donc des significations qui sont très particulière, qui renvoie alors justement à une grande ambiguïté, parce que frère Jean nous apparaît très comique à coup sûr, mais il est aussi en partie condamné, si l'on peut dire, par ces éléments de croisade, et on est face ici à ce que l'on peut appeler une farce cruelle, comme on en a souvent chez Rabelais, pour lesquels il faut aller à plus haut sens, enfin comme le disait d'ailleurs saint Augustin, mais donc vous voyez, c'est alors on a comme ceci sans arrêt dans le texte des petits éléments pour lesquels on peut faire d'autres lectures, mais après tout cette lecture, bon, que moi j'ai beaucoup de plaisir à faire, cette lecture cryptée, à retrouver tous ces éléments et voir la complexité, oui, c'est un plaisir, mais c'est aussi un plaisir de faire la lecture la lecture vraiment simple, et je ne veux pas dire simple parce que ce serait péjoratif, non, cette lecture à laquelle Rabelais nous convie, qui est aussi la lecture littérale, parce que je crois qu'il y a chez Rabelais un même plaisir à faire une lecture au premier degré qu'à faire ses lectures à plusieurs degrés.
Mireille Huchon, vous avez entendu une faute qui vous aurait écorché les oreilles de prononciation lors de cette lecture par un comédien qui n'est pas un saisiémiste?
Oh, ben ça, vous savez, les fautes de prononciation, bon, d'abord, je ne suis pas une puriste, hein, ça je tiens à le dire. Et puis le point, vous savez, si on voulait prononcer comme on prononçait au XVIe siècle, il faudrait rouler les R, il faudrait d'autre part prononcer les on. C'est-à-dire on ne disait pas femme, mais on disait la femme. On disait ce qui permet d'ailleurs des tas de jeux de mots absolument. Je rappelle le comment à nom, le comment à nom, le comment à nom. Donc vous avez cette fameuse syllabe qu'on trouve à peu près partout. Donc si vous voulez, il y a vraiment enfin une manière de prononcer qui est très différente de celle que nous avons actuellement. Et puis on prononçait les ouais, on prononçait le bouet, le rouet, etc. Il est dans le bouet. Un certain nombre d'ailleurs de particularités qu'on retrouve dans la langue canadienne, hein, qui ont conservé des particularités du XVIIe siècle que l'on avait déjà au XVIe siècle, et également dans la nasalisation, etc. Mais bon, le point, c'est que si on le lit vraiment comme on le lisait au XVIe siècle, ça devient impossible à comprendre, hein, dans une certaine mesure. Je ne vais pas m'amuser peut-être à vous faire ce type de lecture, mais ce sera beaucoup moins.
Quand même, amusez-vous une seconde, Mireille Huchon.
Ah, mais je n'arrive pas à rouler les R, alors ça c'est un peu difficile. Es ans, es carlebouillet, la serre de verre, es autres, romper de blas, et jambes, es autres, le délocher, les bondils du cou, es autres, le démouler, les reins, avaler le nez, pocher les yeux, fonder les mandibules, enfoncer les dents en la gueule, décrouler les omoplates, façonner les grèves, dégronder les ischites, débusiller les fossiles.
C'était Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault avec Mireille Huchon qui vient de publier chez Gallimard une biographie de Rabelais. Prise de son Philippe Palares, réalisation Ghislaine David. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le site de Tire ta langue et laisser des commentaires nichés dans franceculture.com.